Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes dans la matinée Etienne sur Twitch. Vous avez le sommaire avec toute l'actualité qu'on évoque aujourd'hui ce jeudi. Mais il y avait une actualité qu'on voulait mettre en avant, qu'on voulait partager avec vous, qui est en une du Parisien, sur les réalités de l'économie de la livraison à domicile. Et avec une grande première en France, une plainte de 4 associations de coursiers contre les géants Uber Eats et Deliveroo. Une plainte pour traite d'êtres humains. 4 associations de coursiers ont engagé des poursuites en justice auprès du parquet de Paris contre ces plateformes, les géants du secteur dénonçant des conditions de travail contraires à leur dignité. Il y a quelque temps, on a déjà lu des papiers là-dessus et des enquêtes, notamment dans Libération, je crois, peut-être dans L'Humanité aussi, sur les conditions de travail des hommes, puisqu'à hauteur de 80, il y a une enquête qui a été menée récemment, à hauteur de plus de 90% sont des hommes, et de ces étrangers, puisqu'à plus de 90% sont des étrangers, et le plus souvent, nous a appris cette enquête il y a quelques jours, en situation irrégulière. Penchons-nous sur ce phénomène, sur ces conditions de travail, sur cette plainte en justice et ce qu'il y a derrière. Des livreurs exploités. 4 associations attaquent donc Uber Eats, Deliveroo pour traite d'êtres humains, donc les mots sont extrêmement forts. Traite d'êtres humains, ça nous renvoie à l'esclavage, hein, pour ceux qui l'auraient pas compris. Dénonçant des conditions de travail contraires à leur dignité. C'est une première, ça n'est jamais arrivé en France. Ils font désormais partie du paysage, sillonnant les rues, arc-boutés sur leurs deux roues pour livrer repas ou courses, qu'importe la météo, vous connaissez, vous y faites peut-être appel. Un service plébiscité par les usagers, mais dont les coulisses ne cessent d'être dénoncées par ceux qui le rendent, et de plus en plus. Régulièrement, les livreurs posent le vélo, font grève pour protester contre leurs conditions de travail. Cadence infernale, horaire à rallonge, algorithme tout puissant et baisse constante des revenus. Certains, parce que ça c'est un constat qui a été fait aussi, ça paye moins que ça n'a payer hein, ce métier. Certains parviennent à faire condamner les plateformes pour leurs entorses au droit du travail, des décisions rares au regard du nombre de ces forçats du bitume. Combien de livreurs de ce type en France, estimé à 70 000. Le chiffre est énorme. Pour faire changer les choses, 4 associations de livreurs ont déposé plainte ce mercredi auprès du parquet de Paris pour traite d'êtres humains à l'encontre précisément d'Uber Eats et Deliveroo. Cette plainte est inédite car jamais, sauf erreur, les plateformes n'ont été poursuivies sur un tel fondement qui se rapporte en réalité à de l'esclavage moderne, précise Maître Thibault Lafourcade, qui est leur avocat. Alors il y a Camisole qui dit « Bonjour, comme évoqué lors des précédents articles, que le consommateur arrête d'utiliser ses services et se questionne sur ce modèle économique. » Alors, c'est une solution, je lance le débat. Je pensais le faire plus tard, mais la question de Camisole est intéressante. Quel est le comportement que nous devons adopter, nous, en tant que citoyens? Est-ce qu'on doit faire, au regard de ce qu'on va découvrir dans un instant sur les conditions de travail de ces livreurs, est-ce qu'on doit arrêter de commander à ces sociétés au risque de supprimer ces emplois qui sont des emplois catastrophiques, mais dont ont besoin les personnes concernées, pour l'essentiel des étrangers et beaucoup d'étrangers en situation irrégulière? Ou est-ce qu'il faut plutôt, par la loi, par la mobilisation, dans l'ordre, par la mobilisation et par la loi, forcer les plateformes à créer des conditions de travail correctes pour ces gens? C'est ça le débat, en fait. Cette plainte s'appuie sur de nombreuses études, dont les données caractérisent, selon lui, un recrutement de livreurs précarisés et une exploitation dans des conditions de travail contraires à leur dignité. D'abord, destiné aux étudiants, hein, des jobs à temps partiel ou en complément, et c'est encore le discours d'ailleurs dominant dans ces plateformes, ces jobs auraient perdu leur attrait économique pour échoir à une population. Aujourd'hui, c'est ce que disent les enquêtes en France sur le sujet, dont une très complète qui a été menée il y a quelques jours, auraient perdu leur attrait économique pour échoir à une population essentiellement composée de personnes immigrées. 98% de personnes immigrées selon une récente étude de Médecins du Monde qu'on a lue ici, et 68% n'ayant pas de titre de séjour. Donc ce que cette étude qui a été rendue il y a quelques jours, notamment par Médecins du Monde, dit, c'est qu'aujourd'hui, 98% des coursiers sont des personnes immigrées et 68% n'ont pas de titre de séjour, sont donc en situation irrégulière. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de femmes livreurs. Les trois quarts de ces livreurs seraient ainsi contraints de louer leur compte à un tiers, puisque sans papier, ils n'ont pas le droit d'avoir un compte. Tiers qu'il faut rémunérer, ce qui vient réduire encore d'ailleurs la rémunération déjà très faible à la base. Une pratique illégale mais courante qui ampute encore le revenu qualifié de dérisoire dans la plainte. En 2023, les plateformes avaient signé un accord pourtant garantissant aux livreurs un revenu minimal horaire de 11,75 € brut, donc on peut se dire, ah bah voilà, hein, il y a eu un progrès, porté même à 14 € depuis par Uber Eats, mais, et le mais, il est essentiel, mais sans compter les temps d'attente. D'après Médecins du Monde, les livreurs travaillent donc en moyenne 63 heures par semaine pour 1480 € mensuels, soit un revenu horaire non pas de 14 €, non pas de 11,75 €, mais inférieur à 6 € brut. Ça, c'est la réalité économique de ce secteur aujourd'hui. Une étude qui est contestée par Uber Eats, tant sur le temps de travail, hein, eux, ils n'ont pas les mêmes chiffres, les livreurs se connectent en moyenne 26 heures par semaine, que sur leur rémunération en hausse de 5% par rapport à 2024. De son côté, Deliveroo fait valoir qu'elle se situe parmi les plateformes les plus performantes du secteur en termes de rémunération et d'y mener des discussions dans le cadre du dialogue social. Donc les deux plateformes contestent ces chiffres. Mais c'est la structuration même de cette économie de la flemme, alors ça parle de nous, citoyens consommateurs, qui est jugée problématique. Les plaignants dénoncent un statut d'auto-entrepreneur subi imposée, là où une présomption de salariat devrait prévaloir. Hein, c'est quand tu es auto-entrepreneur mais que tu ne travailles que pour un employeur, pour une plateforme ici, eh ben, c'est ce qu'on appelle du salariat déguisé. Un enjeu dont l'Union européenne s'est d'ailleurs saisie dans une directive de 2024 que la France, qui a 2 ans pour le faire, n'a toujours pas transposé dans sa législation. Donc au niveau de l'Union européenne, hein, parce que souvent, tout à l'heure je disais, mais est-ce que la solution c'est ou d'arrêter de faire appel à ces plateformes, mais là vous condamnez ces gens qui font un travail de chien, mais qui ont ce travail, à ne plus travailler, ou alors vous changez la loi et les règles. Il y a une directive de l'Union européenne qui justement prévoit que là où il y a statut d'auto-entrepreneur forcé, eh bien il y a une présomption de salariat qui devrait prévaloir. Sauf que le droit français n'a pas encore traduit dans nos lois cette directive européenne. Derrière une présentation très moderne, ces plateformes instituent un travail à la tâche tel qu'il existait au 19e siècle avec la création d'une société de valets, estime Circe Linard, qui est coordinatrice de la Maison des Coursiers de Paris, l'une des associations qui a porté plainte. Certains de ces livreurs se connectent de 7h à minuit. Le non-paiement des heures d'attente permet aux plateformes de disposer d'un vivier de main-d'œuvre avec une mise en concurrence des livreurs entre eux. Certains passent leur journée à refuser des courses trop peu rémunérées, mais peuvent aussi céder par peur d'être blacklistés, pointe Jonathan Lutil-Chevalier, coordinateur de la maison des livreurs à Bordeaux. L'algorithme teste en permanence le niveau de précarité des livreurs pour voir jusqu'où il peut descendre. Cette phrase, elle est monstrueuse. La plateforme sait tout du livreur tandis que lui ne sait plus rien du système, reprend cette plainte qui dénonce un système opaque fait de dépendance et de crainte. Ils travaillent sous pression psychologique constante, notamment avec cette peur de voir leur compte déconnecté, annulé, avec la peur au vent de se voir déconnecté et de plus avoir de travail et de revenus. Un retard dans la livraison, un soda renversé, c'est la mauvaise note assurée. Pour répondre aux exigences, les livreurs prennent tous les risques, tout le temps, par tous les temps. Quand il pleut, on peut m'appeler pour 4 ou 5 accidents dans une nuit. Dépeint par exemple Youssouf Kamara, qui est le président d'une association qui regroupe 600 livreurs à Bordeaux. Je vous lis et je continue la lecture de l'article, parce que je vois beaucoup de réactions. Personne ne les oblige, vient d'écrire Dolman 654, qui estime en fait qu'on peut proposer à peu près n'importe quel taf, à n'importe quelle condition, à n'importe quel salaire, quel que soit le nombre d'heures, les risques pour la santé en France. S'il y a des gens qui l'acceptent, c'est leur problème. Merci beaucoup pour cette intervention dans le chat. Je pense que même au Moyen-Âge, on était un peu plus avancé sur le sujet que ce que tu viens d'exprimer. Pardon d'être un petit peu sec. Je confirme pour travailler dans l'accompagnement en formalité d'entreprise, me dit Inacro. La majeure partie d'immatriculation en micro-entreprise des coursiers à vélo sont de nationalité étrangère. Par contre, ils ont tous un titre de séjour car ils ne peuvent pas avoir de cabis. Oui, ça c'est pour les déclarer. Tout à fait. Mais c'est pas ce que dit l'enquête de Médecins du Monde, qui dit que les 2/3 de ces coursiers sont en situation irrégulière et qu'ils louent en fait des vrais comptes, ceux que tu décris, à des gens qui en fait, eux, ont les papiers. Attention au discours qui responsabilise les consommateurs, me dit Disco Shiny Nuts, que je suis content de revoir dans cette communauté, c'est un pseudo que j'avais pas vu depuis longtemps. Je n'utilise pas perso, me dis-tu, mais c'est à l'État de faire en sorte de légiférer pour améliorer les conditions de travail de ces travailleurs, à mon avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Parce que c'est le débat central en fait. Alors vous êtes très nombreux à me parler du film L'histoire de Souleymane, hein, qui parlait exactement de ce sujet que moi je n'ai pas vu encore. Pas d'accord, me dit Dopio Boy, la responsabilité du consommateur est à prendre en compte en participant à ce système. C'est trop facile de culpabiliser les gens. Si quelque chose est légal mais pas éthique, c'est à l'État de s'en occuper. Pour moi, appeler au boycott, c'est utopique, me dit Sugar, de penser que ça va marcher. Il faut punir ces plateformes et les donner les forcer à donner un vrai statut aux livreurs pour qu'ils soient protégés. Je suis utilisatrice et j'avoue, me dit Elisabeth, que quand une femme seule avec un enfant en bas âge, par exemple, c'est pratique de se faire livrer. Les deux, me dit Tinku, légiférer pour encadrer, plus informer et former les personnes pour changer les habitudes de consommation, ça va prendre du temps pour arriver, me dis-tu. Je suis pas économiste, vous le savez. Mais la question que je me pose, c'est si par exemple, si massivement demain, nous décidons d'arrêter de faire appel à ces plateformes, on est d'accord que les 70 000 personnes dont nous parlons ici, si nous arrêtons hein, pour ne pas nourrir ce système, les 70 000, on parle de 70 000 personnes en France, c'est une question toute bête, hein. Que deviennent ces 70 000 personnes? L'enquête de Médecins du Monde nous a dit qu'à plus de 90% sont des gens étrangers et que 2/3 d'entre eux sont en situation irrégulière. Il y a un côté de l'échiquier politique qui a une réponse très très claire à la question que je viens de poser, mais celle-ci, elle ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens dont c'est le seul emploi? C'est ça aussi la question. Je poursuis l'article. Puni de 10 ans de prison et de 1,5 million d'euros d'amende, le délit de traite des êtres humains ne peut être établi qu'à condition de prouver que les plateformes en ont conscience. Deliveroo réfute avec la plus grande fermeté toutes les allégations en lien avec la qualification visée et conteste vigoureusement les intentions qui lui sont prêtées. Il en fait valoir la première quand Uber Eats estime que ce dépôt de plainte que nous apprenons par voie de presse ne repose sur aucun fondement. Elles connaissent par les éléments d'identification obligatoire des études publiées ou ne serait-ce que les rémunérations octroyées, la situation d'extrême précarité dans laquelle elles plongent ces personnes et estime à l'inverse l'avocat des associations qui ont porté plainte. Ces livreurs sur notre territoire n'ont pas moins de droits que quiconque, et c'est aussi le message que mes clients souhaitent faire passer. Et là, on a quelque chose d'intéressant, on a un témoignage aussi d'un de ces livreurs, justement. Il s'appelle Abou, il a 28 ans, il est livreur depuis 6 ans, et lui, il dit, c'est devenu comme de l'esclavagisme. Les deux roues reconnaissables à leur sacoche isotherme vert pomme s'entassent devant la maison des coursiers à Paris, deuxième arrondissement, financée par la mairie, cette structure associative offre un refuge aux livreurs à vélo qui peuvent y obtenir une aide administrative, consulter une infirmière ou y patienter au chaud. Ce jeudi après-midi, plus un siège n'était disponible. Entre 14h et 18h, il ne se passe rien, on attend. Éclair à bout, livreur depuis 6 ans, 7 jours sur 7. Certains se connectent dès 7h du matin. Il lui a commencé sa journée à midi, mais n'a aucune idée de l'heure à laquelle il rentrera chez lui dans le Val d'Oise. La veille, il s'est arrêté à minuit, faute de commande, pour un total de 56 euros bruts gagnés dans la journée. Quand le temps n'est pas bon, qu'il fait froid ou qu'il pleut, là on peut monter à 1200 euros bruts par semaine, mais parfois c'est 800 ou 400. Une somme dont il faut encore prélever les 100 euros hebdomadaires que lui réclame le véritable titulaire du compte, puisque vous avez compris que Abou était en situation irrégulière comme les deux tiers de ses livreurs en France. Comme 76% des livreurs selon une étude de Médecins du Monde dévoilée le 31 mars, Abou doit le louer à un tiers faute de papier en règle. C'est même plus des deux tiers. Une problématique connue des plateformes qui ont renforcé la lutte contre la fraude en demandant chaque jour des selfies d'authentification. Et il faut aller vite, sinon ton compte est bloqué, décrypte Abou qui doit ainsi se plier aux horaires de son loueur et le retrouver en urgence où qu'il soit. Réalité racontée par L'Histoire de Souleymane, le film dont vous me parlez beaucoup depuis tout à l'heure, film multiprimé au César et à Cannes, dont une immense affiche orne le mur derrière lui, et une contrainte supplémentaire dans des journées guidées par ce seul objectif, ne pas contrarier la plateforme. Tous les jours, on réfléchit à ne pas avoir de problème, résume cet Ivoirien de 28 ans. Si on refuse trop de courses, si un client ou restaurateur se plaint, ton compte peut être suspendu ou désactivé. Les conditions de travail, ce sont les horaires, ce sont les conditions de travail difficiles, c'est le salaire faible, et c'est aussi le fait d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête qui fait que ton compte peut être suspendu ou désactivé, que tu sois en situation régulière ou pas. D'ailleurs, à tout moment, comme j'imagine les deux plateformes dont on parle ne sont pas employeurs, parce que font appel officiellement à des gens auto-entrepreneurs, après tout, il n'y a pas de protection du salarié parce qu'il n'y a pas de salarié, et le compte peut être bloqué, suspendu à tout moment. Voilà, la pression est gigantesque. Une décision en coup près annoncée par un message lapidaire, tu reçois un message sur ton téléphone, hein, tu peux plus bosser. Les demandes d'explications, parfois les supplications, sont gérées par un chatbot qui leur envoie des messages types sans jamais leur donner la raison. Au pays d'Uber Eats et de Deliveroo, le client est roi. Nombreux sont ceux qui exigent que leur repas ou leur course soit déposé devant leur porte, même au sixième sans ascenseur. Quand bien même cela ne fait pas partie du contrat, les frictions sont légion. Si le code et l'étage n'ont pas été renseignés, on n'a pas le droit d'entrer, mais ils ne veulent pas l'entendre, souligne Abou, parlant des clients. J'ai payé, tu montes, les autres ils montent, s'est-il un jour vu rétorquer avant d'être frappé par ce client mécontent. La livraison est devenue comme de l'esclavagisme, déclare ce livreur. On a tout le temps peur d'être déconnecté, donc on est obligé d'accepter ce qu'on nous impose. Le jeune homme déplore aussi, il n'est pas le seul, une baisse constante des tarifs depuis la fin de la pandémie. Avant, une course de 4 km était payée 6,50€, maintenant c'est 4,50€. Et si on ne la prend pas, un autre le fera. Il est 17h, son portable sonne enfin, un rapide coup d'œil et il décline la course. Aller dans le premier arrondissement, attendre, livrer dans le 7e, c'est plus d'une demi-heure, à 5€, c'est non. Pour parer à l'épuisement et faire face aux distances de plus en plus longues, il n'est pas rare qu'il livre jusqu'en grande banlieue. Abou a investi dans un scooter. Ceux qui n'ont qu'un vélo classique n'ont aucune chance, selon lui. À la crainte du vol de matériel ou d'un contrôle de police s'ajoute celle de l'accident. Quand il neige, il y a beaucoup de commandes, mais c'est dangereux. Je suis tombé plusieurs fois. Quand tu le signales, l'application te demande d'abord si tu peux livrer quand même. Quand tu dis que tu as un accident, à l'application, la première question de l'application, c'est est-ce que tu peux livrer quand même. Percuté par une voiture en pleine nuit, il avait dû attendre le lendemain pour voir un médecin. Dans l'après-midi, il était de nouveau en selle. C'est le travail le plus ingrat qui soit, selon Yaya Seko, qui est ivoirien. Dans son sac à dos, une chambre à air, du petit outillage. Si tu tombes en panne, tu dois te débrouiller seul. Il décrit des journées à faire attention à tout, la circulation, l'itinéraire, la police, ses clés, son portable, verrouiller son cadenas et sourire au client. Lui non plus ne compte plus les humiliations teintées de racisme, ceux qui récupèrent leur sac en prenant soin de ne pas le toucher, qui lui claquent la porte au nez ou se plaignent de son accent. Quand tu rentres dans les restaurants, on te dit que tu gênes. Tu peux faire 10 km, payer 10 euros pour un client qui va te parler comme si tu n'étais même pas un être humain. Souvent ça me déprime, mais quand je pense à ma famille, je me dis que je suis obligé. Alors je baisse les yeux. Alors là, je me félicite que dans les médias, en tout cas les journaux que je lis, des papiers de ce type, avant il n'y en avait pas, et il y en a de plus en plus parce qu'on est en train de prendre conscience collectivement de cette situation qui ne va pas, qui ne peut pas durer. Je vous lis sur le sujet. Alors, je vois beaucoup de débats dans le chat sur la responsabilité de l'État, des plateformes et des consommateurs. Elle est peut-être partagée cette responsabilité. La France est opposée à une régularisation de ces plateformes portée par la Commission européenne. Alors plus précisément, d'après l'article, il y a une directive européenne qui n'a pas été transcrite encore en droit français. Mais tu as raison, attends, je corrige. La France est opposée à cette directive à l'époque. Ce sont des travailleurs, dit Louis Metz, liés à des entreprises extrêmement précarisées car sans aucun droit de salarié, exploité par des algos inhumains. La situation actuelle est honteuse. À Cédric, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais ils le savent avant de s'engager, non? Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais peut-être qu'ils n'ont pas le choix. Juste en dessous de toi, à Cédric, écrit Madgy Twitch, l'immigration illégale qui crée des travailleurs précaires et tire tous les salaires vers le bas, le rêve du capitalisme en somme. Ont-ils un autre choix que d'accepter ces emplois, je mets des guillemets parce que on peut pas parler d'un emploi. C'est le dilemme du faux choix. Emma de la Toile écrit, ne nous voilons pas la face pour avoir bonne conscience, nous sommes autant responsables que les entreprises de cette précarisation. Si pas de demande, pas d'offre. Et on se dédouane en disant qu'on les fait travailler, c'est les mêmes arguments que pendant la colonisation. Encore une fois, si demain on se mobilise tous pour arrêter de faire appel à ces plateformes, à ces services, quid de ces 70 000 personnes? Qu'est-ce qu'elles deviennent, quoi? Est-ce que la solution n'est pas plutôt que des nouvelles règles soient mises en place pour que ces personnes puissent travailler dans de bonnes conditions, quoi? Minimal de décence. C'est là où l'État a un rôle à jouer. Et le législateur. Encore une fois, il y a une directive européenne qui demande, qui n'attend que son application en droit français. Je ne sais pas si on aura la solution collectivement ensemble ce matin à ce sujet. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, vous avez le dossier du Parisien ce matin. C'est même ça une avec cette plainte de plusieurs associations pour traite d'êtres humains, autrement dit pour esclavagisme.